C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, ouverture de l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Les inrocutibles, évidemment, avec un nom pareil, pas facile, peuvent-ils se réinventer après 30 ballets de prescription musicale et culturelle? Nouvelle formule pour le magazine qui semble revenir à ses tout début. Les Inroc, rachetés par Mathieu Pigas, on le sait, banquier fan des Clash, mise manifestement à plein sur l'actu artistique, quitte à s'extraire peut-être de l'actualité sociale et politique. C'est toute une question, d'ailleurs. Peut-on s'engager aujourd'hui lorsqu'on parle de culture? Peut-on être en rupture? Peut-on se différencier? Y a-t-il encore des combats à mener?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Vaste sujet pour une aussi petite émission. Hein.
Bonjour, non, mais c'est Pierre bien, on va y répondre, on va prendre le temps.
Donc Pierre Sankowski, il est directeur de la rédaction des Inroc. Je vais dire les Inroc, comme ça je savonnerai moins. Nouveau format en kiosque demain. Vous êtes également le numéro 2 des nouvelles éditions indépendantes. C'est le groupe de presse de Mathieu Pigas qui regroupe alors les Inroc, Radio Nova qui devient un groupe diversifié avec de la télé, etc. On en reparlera aussi dans cette émission cette année. Vice Rock en scène qui vient d'avoir lieu, le festival. Romain Digita sera des nôtres également tous les mardis. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Qui a passé un bon été.
Oui.
À binger de la série.
Entre autres.
Qu'est-ce que je parle mal avec ses conseils série donc, mais son regard aussi sur l'histoire de l'écriture et de la production du genre. On attaque aujourd'hui avec... Évidemment, l'événement de l'été, c'était la 7e saison de Game of Thrones. Le dernier épisode est passé dimanche aux États-Unis et diffusé hier soir en France sur OCS, non sans quelques émois.
Oui, puisque le diffuseur français était victime de son succès. Ses serveurs ont littéralement planté hier soir lors de la diffusion de cet épisode. Un épisode d'une durée exceptionnelle de 1h20. Mmh. Et pour remplir ces 1h20, eh bien Game of Thrones dispose de moyens d'un luxe incroyable, des tournages en Irlande, en Espagne, en Croatie, en Islande, une déferlante d'effets spéciaux.
Ça, c'est vraiment la marque de fabrique hein, de cette saison.
C'est gigantesque. Ouais. Et surtout, un budget de 14 millions de dollars par épisode, donc pour cette saison 7. C'est énorme. Un épisode de série américaine classique, comme Esprit Criminel, par exemple, c'est plutôt 3 millions de dollars. Bref, c'est la série qui a rendu enfin légitime et crédible l'heroic fantasy à la télé.
Voilà, Romain Nigita qui était tout seul à une époque à défendre Hercule et Xena, vous voyez, les pionniers du genre.
Et ça n'a pas vieilli, il faut les revoir.
C'est ça, il y a ça, il y a vraiment.
Xena, c'est courageux.
Oui, c'est très courageux, mais il n'y a que Romain pour nous sortir des aberrations pareilles sur l'antenne de France Inter. Des audiences monstres à l'appui néanmoins, parce qu'on parle de budget monstre, mais audience monstre pour Game of Thrones.
Oui, ça représente 13 millions de téléspectateurs avec le direct télé replay aux États-Unis sur HBO pour chaque épisode de cette nouvelle saison, et jusqu'à 16 millions pour le dernier dimanche soir. Mais attention tout de même, c'est un peu moins que les grands succès des chaînes gratuites américaines sur CBS. La sitcom The Big Bang Theory a réalisé cette saison une moyenne de 18 millions de téléspectateurs, et NCIS c'est 17,5 millions. Mais quand il s'agit de Game of Thrones, la tension monte d'un cran, puisque HBO était victime d'un chantage durant tout l'été. Des pirates informatiques ont prétendu avoir récupéré des centaines de documents, y compris des scripts et des épisodes inédits.
Mmh. C'est la série la plus piratée du monde. Hein,
oui, c'est tout à fait. C'est un vrai manque à gagner pour HBO, qui rentabilise quand même son investissement, je vous rassure, puisque la série est vue sur abonnement aux États-Unis. Il y a la vente aux chaînes étrangères et il y a bien sûr les DVD et le merchandising. C'est un peu la sainte trilogie pour rentabiliser toute bonne série américaine.
Voilà, enfin, qui disait la télévision payante morte, hein, 16 millions d'abonnés pour un épisode sur HBO. Est-ce que ça tient la longueur, Game of Thrones? Est-ce que ça s'use? Est-ce que ça se renouvelle?
Eh bien, sur cette nouvelle saison, ça bouge carrément. Ouais. Alors, vous connaissez la plus célèbre réplique de la série?
Winter is coming.
Eh bien, l'hiver arrive, sauf que désormais...
Winter is here.
L'hiver est enfin là. Sur cette saison 7, il s'abat sur le royaume de Westeros en charriant avec lui une armée de morts-vivants. Les clans ennemis doivent cesser de s'entre-déchirer pour contrer la menace. Ce qui, pour ces nouveaux épisodes, signifie la toute première rencontre de certains des personnages principaux. C'est un peu comme si Hutch rencontrait Starsky au bout du 50e épisode, quand même. Mais il y a aussi des ellipses temporelles qui ont beaucoup fait rire les spectateurs, puisqu'avec l'accélération de l'histoire, les allers-retours dans ce royaume paraissent beaucoup plus courts qu'avant. Mais il va falloir patienter, puisque la 8e et ultime saison ne sera pas diffusée avant 2019.
Bon, alors pour patienter, vous nous proposez concrètement deux autres séries.
Une ambiance complètement différente avec Bankrott qui débute jeudi soir sur Arte. C'est une délicieuse pépite danoise.
Ah, vous avez adoré.
J'ai adoré, c'est l'histoire de deux losers qui tentent de monter un restaurant.
Tu t'occupes de fixer les lettres sur la façade. Je suis dyslexique, t'as oublié? R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. T'as qu'à suivre l'ordre des lettres.
On va pas appeler ça restaurant.
Alors le cuisinier sort de prison, le sommelier lui est alcoolique et tente d'élever seul son fils qui refuse de parler depuis la mort de sa mère. Bref, ce sont deux pieds nickelés qui vont emprunter de l'argent aux mauvaises personnes et qui vont vite le regretter. Des perdants magnifiques, attachants autant qu'ils sont maladroits.
Et lundi sur Canal+, The State, signé Peter Kominski. Alors Peter Kominski, c'est votre choix Romain, mais moi c'est une de mes idoles, je rêve de l'interviewer. C'est un immense réalisateur britannique, très grand documentariste passé à la fiction. Warriors, c'était lui sur les jeunes casques bleus en Bosnie. The Government Inspector sur l'implication de Tony Blair dans les mensonges sur les armes de destruction massive en Irak. C'est la grande fierté de la télé anglaise, Kominski.
Et on le doit aussi récemment The Promise sur le conflit israélo-palestinien. Et là, il revient qu'une nouvelle mini-série qui s'appelle The State. Et ça nous plonge en Syrie avec quatre Britanniques qui ont tout quitté pour rejoindre Daesh. C'est à nouveau extrêmement documenté et remarquablement interprété. C'est vraiment une série d'utilité publique.
Je récapitule. Game of Thrones, bouclage de la saison 7 sur OCS. C'était hier soir avant le plantage. The Bankrupt pour tout le monde, gratos sur Arte, et The State pour ceux qui ont Canal. Les choix de Romain Digita à retrouver sur franceinter.fr.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
C'est joli ça, hein ?
Arcade Fire.
C'est joli. Arcade Fire, invité spécial de cette nouvelle formule des Inrocks, qu'on trouvera dès demain en kiosque. Les Inrocks, Pierre Sankowski, dont vous êtes directeur de la rédaction, redeviennent-ils le fanzine de ses débuts ?
Ah bah absolument pas, non. On continue à être un hebdo généraliste. D'ailleurs, on le voit très bien dans le premier numéro. Vous le disiez tout à l'heure, la culture, l'engagement. On a demandé à Arcade Fire, qui est un groupe qu'on suit depuis plus de 10 ans, d'être rédacteur en chef de ce numéro. On l'a fait au préalable. On l'a fait avec Welbeck, avec Despentes, avec Nathalie Portman. Et quand on regarde le numéro, les choix d'Arcade Fire sont plutôt des choix engagés. Je pense notamment à ce portrait de quelqu'un que beaucoup de gens vont découvrir demain, qui s'appelle Paul Farmer, qui est passionnant, qui a monté une ONG qui s'appelle Partners in Health, qui s'occupe en gros de donner l'accessibilité aux soins des pays les plus pauvres. Ils ont demandé à ce qu'on suive des Haïtiens qui...
Parce que l'un des membres du groupe...
Régine Chassagne est d'origine haïtienne. Ils ont demandé à ce qu'on suive... David Doucet est parti suivre des Haïtiens qui quittent les États-Unis, qui traversent la frontière pour aller se rendre au Canada. Donc c'est pas un numéro, c'est pas un fanzine, c'est un magazine qui fait des reportages... à l'étranger, qui rencontre des acteurs de l'engagement au quotidien, donc évidemment non.
Alors la question quand même, c'est qu'il y a manifestement plus ces pages d'actu et de société chaude hein, qui ouvraient le magazine au préalable. Donc puisque vous changez de chemin de fer, vous changez de maquette.
Ouais, en fait, on s'est rendu compte d'un truc pendant la campagne présidentielle, c'est que c'était très dur pour un hebdo de suivre l'actu au quotidien. On a un site internet qui demain va être un nouveau site entièrement refait aussi, qui va suivre l'actu au quotidien. Et on s'est dit voilà, ce qu'on va faire de ce magazine.
C'est plus le rôle d'un hebdo.
Bah si, c'est le rôle d'un hebdo, mais on fait des formats longs, on fait des reportages, on fait des grands portraits comme on fait avec Paul Farmer. Donc on fait des choses au long cours. Si c'est pour faire deux pages d'interview de Christophe Castaner, faisons-les sur Internet, on est plus à l'aise, nous, à l'idée de se dire qu'on voulait faire de ce magazine un vrai format presse, avec des grands entretiens. Il y aura des politiques qui seront passées au crible du grand entretien
même,
dans les
Inrocks. Les unes politiques, pendant cette campagne présidentielle pourtant trépidante et tout ça, elles ont été moins nombreuses qu'à d'autres époques.
Non, je crois pas. Non.
Oh si, vous avez fait un peu de Hamon, un peu de Trump, une sur France,
Macron,
sur Ruffin.
Peut-être moins nombreuses. Une interview de Mélenchon. Non, je crois que si on prend le chiffre, on est vraiment à égalité.
Et elles vont revenir, les unes politiques ?
Bah bien sûr, ouais, on fera des grandes interviews d'hommes politiques. C'est pas, il y a pas du tout de volonté de se recentrer sur la culture.
C'est une vraie question parce que vous appartenez à Mathieu Pigasse, donc je l'ai dit. Alors c'est la caricature de Mathieu Pigasse, mais il joue le jeu volontiers de donner une image d'Épinal, le banquier fanat de rock qui rachète Rock en Seine. Est-ce que aujourd'hui ça fonctionne ensemble, justement, l'idée d'avoir une déclinaison papier de ces activités-là qui sont par ailleurs en live sur scène, etc.
Vous voulez dire quoi, une déclinaison papier de...
Bah d'éloigner finalement le journal de son ancrage.
Non, parce que la culture c'est quelque chose. Enfin, nous on a toujours considéré la culture comme quelque chose d'engagé. C'est, je pense que les Inrocks depuis la création mettent des gens en couve qui sont pas forcément toujours au top de l'actualité. Vous parlez de Ruffin par exemple. Je pense qu'on a été parmi les premiers à le mettre en couverture. Donc ça c'est une forme d'engagement. Il y a eu des couves cette année avec Jacques, avec Fishback, avec Mac DeMarco, qui sont des gens qui pour la plupart ont eu leur première couverture. dans un média français. Donc l'engagement, c'est ça pour nous. C'est vraiment aller chercher des artistes que le grand public ne connaît pas. C'est la prescription. C'est vraiment, on a mis ça au cœur de ce projet.
Alors ça, je trouve que c'est une question absolument brûlante et passionnante et qui dépasse largement celle des Inrock. C'est comment se différencier aujourd'hui en matière de choix culturel, parce que quand on prend Arcade Fire, Énergie aime Arcade Fire, France Inter aime Arcade Fire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a l'impression d'être, vous et moi, pris dans une génération un peu compliquée de ce côté-là. On a l'impression qu'il n'y a plus de contre-culture, que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui de parler de pop culture depuis qu'on a décidé que les westerns et les Beatles c'était de la culture de toute façon. Vous voyez?
Ouais, moi je pense que...
Que c'est difficile de s'extraire de ce qui est très mainstream, de ce qui est le flow. On a l'impression que les générations tout confondues aiment la même chose, que politiquement le Figaro et Libé et Elle aiment la même chose.
Mais non, c'est grâce aux Inrock, c'est parce que les gens ont grandi avec les Inrock et cette culture, effectivement, cette culture un peu underground, les Inrock ont aidé à ce qu'est l'SM, justement, au travers des médias. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans les médias, qui sont passés par les Inrock. Olivier Nuque, par exemple, qui est au Figaro, il est passé par les Inrock. Donc il y a plein de gens comme ça qui sont formés aux Inrock et qui aujourd'hui SM dans les médias. Mais
donc tout ça est tout à fait dominant et c'est extrêmement difficile d'être
après,
à la marge finalement.
Ce qu'il faut, c'est la question qu'on s'est posée nous, c'est justement comment rester prescripteur et ça implique d'être présent justement, de rechercher tout le temps des choses nouvelles et d'être tout le temps aux aguets de ce qui se passe dans la musique, dans le cinéma.
Action Bronson, je vous fais écouter Action Bronson. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Bon alors justement, il y a un cahier critique qui est quand même assez épais, assez renforcé. Et là vous faites des choix de voilà Action Bronson, rappeur. Moi je l'ai découvert chez vous, mais je suis particulièrement inculte en la matière. On lit peu de papier sur lui ailleurs.
Ouais, Action Bronson, voilà, ça fait partie des gens qu'on a suivis depuis le début. C'est un mec passionnant qui est à la fois obnubilé par la nourriture et le hip-hop. Donc c'est des gens que nous on a défendu depuis le début. On a vraiment envie de garder cette envie de voir nos lecteurs découvrir des choses dans les pages. Là, on a fait une petite news sur quelqu'un qui s'appelle Cléro, qui est une jeune américaine de 19 ans. Je pense qu'on va avoir la première mention de Cléro dans l'histoire de la presse française. C'est toujours garder cette envie d'être les premiers sur Internet, on est tous les jours à la recherche de ça. Donc oui, nous les Inrock, ce qui nous passionne, c'est d'aller rencontrer des gens pour la première fois. Je me souviens, moi, quand Jean-Daniel Beauvallet m'a dit « Tu vas aller à Boston rencontrer Arcade Fire ». J'avais pris l'avion, j'avais été un des premiers journalistes, voire le premier à rencontrer Arcade Fire. Et c'était hyper grisant de se dire qu'on est les premiers à ramener quelque chose de ces gens-là.
Pierre Sankowski, donc vous ne venez pas d'arriver à la tête des Inrock, même si vous pilotez cette nouvelle formule. On va revenir quand même sur ce qui s'est passé depuis que vous avez remanié déjà ce journal et que vous en avez pris la direction de la rédaction. Il y a eu cette fameuse enquête sur l'animateur et producteur Jean-Marc Morandini. Deux plaintes en justice s'en sont suivies, une classée sans suite pour harcèlement, une autre qui est toujours en cours d'instruction pour corruption de mineurs. Donc à ce jour, il est toujours présumé innocent. Dans le doute, il a quand même été suspendu d'Europe 1. Son arrivée sur iTélé a été retardée. Ça a été une sorte de séisme médiatique dans ce petit monde. Est-ce que le journal a été l'objet d'une plainte de la part de Jean-Marc Morandini?
Oui. Ouais, plainte en diffamation, ouais, mais voilà, après, on est comme tout le monde, on fait confiance en la justice de notre pays.
D'accord, donc ça aussi, c'est en cours et ça n'a pas abouti. Ce qui était assez paradoxal dans cette période, c'est que vous avez aussi pas mal développé les pages sur les médias et vous avez consacré beaucoup de portraits à des personnalités médiatiques. Alors, j'ai eu droit à mon portrait, moi aussi, j'étais ravie, mais des portraits extrêmement gentils, extrêmement gentil, dans lequel on retrouvait pas du tout le côté poil à gratter des Inrock.
Ouais, parce qu'en fait, dans ces pages médias, c'est vrai qu'on en a peu, en fait. Donc, c'est vrai qu'on préfère parler de gens qui nous intéressent que de prendre ces pages-là pour dézinguer quelqu'un un peu gratuitement. On est plutôt, et on a toujours été dans les Inrock, plutôt dans l'idée de parler de gens qu'on aime et qu'on découvre. Il y a un côté un petit peu
enthousiaste. Que vous dézinguez le billet dur de Christophe Comte?
Pas du tout, non. Christophe Comte continue une chronique qui s'appelle Rien à dire. Et c'est vrai qu'on avait passé au crible quasiment tout le monde. Jean-Luc Mélenchon avait eu droit à 4 billets durs. Enfin voilà,
alors c'était, pour ceux qui connaissent pas les Inrock, un des marqueurs du du journal. Hein. On l'ouvrait, on tombait dessus quasi tout de suite. C'était une pleine page.
Ouais, depuis 7 ans, mais les Arocs ont 30 ans. Et, je
et
pense
donc
que...
Christophe Comte, il n'avait plus personne à étrier dans...
Bah si, il aurait pu continuer jusqu'à la fin de sa vie à étrier des gens, mais le but est quand même aussi de se renouveler. Comme sur France Inter, par exemple, si t'écoutes J'annule tout, devient par Jupiter, mm-hmm. et vous gardez les mêmes chroniqueurs. Donc on a fait pareil aux Arocs, on a gardé Christophe Comte dans une formule renouvelée qui s'appelle Rien à dire.
Alors, autre affaire qui a fait énormément de bruit et qui en dit long sur notre époque, on écoute Florian Philippot, numéro 2 du FN, s'en prendre à l'un de vos rédacteurs en chef, David Doucet, sur BFM TV.
Qu'est-ce que vous répondez à cela avec un ancien Gudard, une figure voilà, qui est proche...
Moi, je réponds qu'à la une des Arocs,
oui.
Vous aviez...
Et vous les aviez vus, vous, avant les tweets?
Ah, mais il faut faire votre boulot, monsieur. Un certain... Mehdi.
D'accord, Florian voilà. Philippot.
Il a été mis en une de tous les mois.
Bon, voilà.
Non, les
il y a eu des explications, il y a eu des explications et des justifications.
Non, il n'y a pas eu d'excuses de la part des Arocs. Est-ce que ce soir vous condamnez cela?
Bah, on les a condamnés dans un édito.
Le directeur des Arocs les a condamnés.
Je résume l'affaire pour ceux qui l'auraient oublié. Vous organisez une rencontre montée en couverture entre Christiane Taubira, ancienne ministre, et Mehdi Ebadrou, qu'on a connu aussi chroniqueur
ouais,
sur France Inter.
Qui était salarié de France Inter. Ouais.
Et salarié non, chroniqueur. Auteur d'un livre qui était sur le point de sortir. Deux semaines après passage des deux mêmes impétrants dans la grande librairie, le lendemain, une téléspectatrice ressort les tweets du début des années 2010 de Mehdi M'éclate, publié sous le pseudo Marcelin Deschamps, d'une violence rare, misogyne, antisémite, etc. Christiane Taubira se désolidarise dans un communiqué. Cinglant.
Non, vous condamnez. Elle s'est pas désolidarisée. Elle a. C'est le texte était beaucoup plus fin que ça. Vous l'avez lu vite.
Oui, je l'ai. Je l'ai, le texte, il est là en fait, quand même. Vous condamnez aussi, dans un édito dans le journal. Puis ensuite, des journalistes exhument des tweets et des retweets de votre part, prouvant que vous étiez en conversation régulière avec lui, donc c'était difficile pour vous que ça vous échappe et que vous étiez bien conscient. Et puis on n'en a plus parlé. Et pourtant, cette affaire, elle a fait date. On s'est même mis à parler de m'éclatosphère.
Ouais, bah vous passez un extrait de Florian Philippot. Je crois que Florian Philippot.
Bon, ça c'est au moment où la mèche s'est
allumée. Ouais, mais enfin bon, on n'a pas de leçon à recevoir de Florian Philippot. C'est quand même quelqu'un qui travaille avec la famille Le Pen. Alors je veux bien, vous voyez, c'est quand même compliqué de se dire qu'on va recevoir des leçons de Florian Philippot, qui lui-même passe sa vie avec Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour des propos terribles aussi. Donc voilà, je crois que dans cette affaire, effectivement, les Arocs et moi avons pris beaucoup, mais bon, moi je suis un garçon solide, j'ai tenu le coup, vous avez vu, Jean-Marc Morandini a dit que je quitterais les Arocs, je suis là devant vous, donc il n'y a pas eu vraiment de secousse, ça a été compliqué, parce que cette affaire, elle était poussée par la fachosphère, mais bon, après, on a survécu à ça, et je pense que l'édito que j'ai fait était très très clair... À cet égard.
À cet égard, mais quand même, vous qui êtes un énorme consommateur de Twitter, vous suivez 12 000 personnes sur votre compte Twitter. Vous avez vu cette parole évoluer sur la twittosphère, sur Twitter. Vous avez vu cette parole très très libre au début des années 2010, très lâchée, très inconsciente, très irresponsable, et puis petit à petit se polissée avec justement ce qui a surgi, c'est-à-dire pas de droit à l'oubli.
Oui, mais ces tweets, moi je les avais pas vus, comme beaucoup de gens à France Inter, par exemple, ne les avaient pas vus. Je veux dire, on peut pas tous les jours regarder les comptes des gens et puis les passer au peigne fin. Donc Twitter, c'est un flux de tweets qui s'enchaînent tous les jours. Et je pense que le but n'est pas de les consigner, d'aller faire des enquêtes sur les tweets des gens, sinon.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient pas indispensable, vu comment on s'est tous fait piéger dans cette histoire?
Bah si, on peut aller voir les tweets des gens, mais je veux dire, ça va plus loin que ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas du coup partie de notre devoir
tous. Bien sûr, mais je pense que le journalisme n'est pas uniquement... ça consiste pas uniquement à aller vérifier les tweets des gens sur Internet. Je pense qu'il y a quelque chose de plus noble quand même dans le journalisme que ça. On est plus dans du flicage que dans du journalisme à ce moment-là.
Merci beaucoup Pierre Siankowski. Arcade Fire, rédacteur en chef des Inrecuptibles, en kiosque dès demain. C'est la nouvelle formule du magazine. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebé.
Bonjour Sonia de Villers.